pencher aujourd'hui sur l'économie du bien-être d'Alfred Cecil Pigou, un ouvrage publié en 1920 dans lequel l'économiste britannique s'intéresse aux relations entre la production et le bien-être des sociétés. Et c'est Jacques Lecacheux qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous êtes professeur agrégé d'économie à l'Université de Pau et à l'École nationale des ponts et chaussées. Avec son essai, The Economics of Welfare, Arthur Pigou pose les fondements de ce qu'on appelle l'économie du bien-être. Alors, qu'est-ce que le bien-être en économie et comment se mesure-t-il selon Pigou ?
Alors, justement, là, l'ouvrage de Pigou est très intéressant parce que il consacre de très longs développements dans les premiers chapitres à essayer justement de cerner cette notion de bien-être. Il essaie surtout de voir quelle est la relation entre ce qu'on peut appeler le bien-être économique, c'est-à-dire au fond l'affluence, l'aisance, la prospérité, et puis le bien-être au sens des philosophes. Donc il a une réflexion assez profonde sur cette question, et ensuite il va passer à la question de savoir comment on peut mesurer le bien-être économique à partir du moment où il conclut qu'il y a quand même une assez bonne corrélation entre le bien-être économique et le bien-être en général.
Alors selon lui, tout accroissement de la somme disponible, donc des biens économiques, va dans le sens d'une augmentation du bien-être. Et Pigou postule également l'utilité décroissante du revenu ou de la richesse. C'est l'idée que la perte de satisfaction que subira le riche, que l'on taxe, sera moins grande que le surplus de satisfaction dont jouira le pauvre, qui recevra le produit de la taxe.
Oui, c'est une idée qui est commune à pas mal d'économistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. C'est une hypothèse qui est un des fondements de l'analyse microéconomique qu'on appelle marginaliste. Effectivement, ça va lui permettre dans cet ouvrage aussi de discuter la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la redistribution, c'est-à-dire prélever sur les riches pour donner aux pauvres avec des justifications théoriques solides, on va dire.
Mais le problème, c'est que le bien-être, selon Pigou, suppose que les variations de satisfaction soient finement mesurables et comparables pour un même individu et entre individus. Alors comment les économistes du bien-être vont-ils dépasser ce problème ?
En réalité, ils consacrent aussi des développements assez longs à cette question de la mesurabilité. Ils essaient de proposer des solutions. Mais on sait aujourd'hui que c'est un problème récurrent dans l'analyse économique du bien-être, qu'en fait, on ne peut pas comparer les satisfactions ou les bien-être individuels selon une métrique commune. Et donc, il faut essayer de s'en tirer par soit des hypothèses spécifiques, soit des artifices. Alors, certains économistes contemporains s'en tirent, par exemple, en essayant de mesurer l'équivalent de revenus qui serait nécessaire pour compenser une perte de bien-être, etc. Donc, essayer de ramener ça aux revenus. Mais c'est pas très évident.
Et il y a aussi le concept de Vilfredo Pareto, cette idée du bien-être collectif maximal qui va être ensuite repris par les économistes du bien-être.
Alors, ce qui est intéressant, oui, justement, dans l'ouvrage de Pigou, c'est que, évidemment, il part de ce qui est, au fond, le savoir de son temps, et notamment les grands économistes de la fin du 19e et du début du 20e, donc Marshall, qui a été son professeur, et puis Pareto, notamment. Et il va reprendre l'idée de Pareto que... l'un des objectifs de la politique économique, c'est de maximiser la somme totale de tous les bien-être individuels et donc d'essayer d'atteindre ce que Pareto appelle un optimum social, c'est-à-dire le bien-être le plus élevé possible pour l'ensemble de la société.
Et comment on détermine cet optimum social ?
Alors, l'optimum social, selon Pareto, c'est celui qu'on obtiendrait si tous les marchés étaient parfaitement concurrentiels, si tous les marchés, du coup, atteignaient leur équilibre, s'il y avait parfaite mobilité des ressources entre les secteurs, etc., etc.
Et c'est notamment l'idée que le bien-être collectif maximal est atteint dès qu'on ne peut augmenter le bien-être d'un individu sans détériorer celui d'un autre.
C'est ça. Alors, ce que montre Pareto, c'est que ce qu'on peut appeler la frontière d'efficience de l'économie, c'est-à-dire la limite maximum que l'on peut atteindre sur ce bien-être, correspond justement à une situation où on ne peut plus accroître la satisfaction de l'un sans diminuer celle d'un autre, c'est-à-dire redistribuer du coup.
L'un des grands apports d'Arthur Pigou, Jacques Lecacheux, c'est d'expliquer cette relation qui existe entre, d'un côté, la production et, en l'occurrence, ce qu'on appelle les externalités en économie et le bien-être des sociétés. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que sont des externalités et nous dire ce que Arthur Pigou en fait, en quelque sorte? Peut-être d'abord rappeler ce que c'est qu'une externalité.
Alors, l'externalité, donc, ce sont toutes les situations dans lesquelles la décision économique ou le contrat, donc soit une décision individuelle, soit un échange entre deux agents économiques, va avoir des effets induits non désirés et non pris en compte sur une tierce personne ou sur un tiers agent.
Donc ce sont les effets collatéraux, positifs ou négatifs, voilà, des actions des entreprises.
Des entreprises ou des particuliers, d'ailleurs, de tous les agents économiques, dès lors que les conséquences de leurs actions affectent un tiers qui n'est pas partie prenante à la décision.
Et alors, quel rapport Pigou entretient-il en particulier avec les externalités?
Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans cet ouvrage, c'est que Pigou montre que chaque fois qu'on est en présence d'une externalité, qu'elle soit positive ou négative, eh bien, le marché laissé à lui-même ne pourra pas atteindre ce fameux optimum social dont on a parlé précédemment. Et donc, il montre que dans toutes ces situations, on a ce qu'il appelle un écart entre le coût social et le coût privé, ou ce qu'il appelle le dividende social et le dividende privé, c'est-à-dire bénéfice en gros.
Et alors pour lui, la solution, c'est que l'État devrait mettre en place des taxes punitives en cas d'externalité négative et accorder des subventions en cas d'externalité positive. Alors comment est-ce qu'il en arrive à cette proposition?
Eh bien, en fait, il montre que lorsqu'il y a justement un écart entre le bénéfice social et le bénéfice privé, l'État doit combler cet écart, corriger cette défaillance, ce qu'on appelle aujourd'hui une défaillance de marché, soit avec une subvention lorsque l'écart est négatif, donc il faut inciter donc les gens à faire plus de cette chose qui bénéficie à d'autres qu'à eux-mêmes, soit une taxe lorsque l'écart est positif, parce que dans ce cas-là, il faut dissuader les agents économiques privés de choisir ces solutions qui se font au détriment des autres ou qui ont des effets négatifs, voilà, qui ont des effets négatifs sur les autres. Et donc, il est vraiment à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe pollueur-payeur, par exemple, même s'il n'emploie jamais ce terme lui-même.
Alors, expliquez-nous, effectivement, le principe du pollueur-payeur qui est aujourd'hui au cœur de l'économie environnementale. C'est l'idée pour une entreprise de prendre en compte le coût des conséquences environnementales, par exemple, dans le prix de ses produits.
Ce qui est intéressant, c'est que Pigou donne beaucoup d'exemples, à la fois d'externalités positives et d'externalités négatives, et notamment parmi les exemples, il cite justement le cas d'une usine qui émet des fumées nocives, etc. Donc il y a bien la notion de pollution, même s'il n'a pas le mot, mais enfin, c'est bien des exemples qu'il prend. Et alors, l'idée là est très simple, l'idée c'est qu'au fond, on va obliger l'entreprise à prendre en compte l'externalité négative qu'elle inflige à l'environnement et aux proches, par exemple, en lui faisant payer une taxe qui représente finalement le coût social de son activité de pollution.
Et quel exemple d'externalité positive Pigou mobilise-t-il?
Alors, il en mobilise plusieurs. Hein. Il en mobilise dans le domaine, par exemple, des transports. Il en mobilise aussi dans le domaine de la santé, hein, et dans le domaine aussi de la recherche. Alors, c'est assez intéressant parce que il a tout un développement où il dit la recherche, c'est générateur d'externalité positive parce que ça va donner des connaissances scientifiques qui vont profiter à toute la société. Et donc, il faut que l'État subventionne la recherche parce que c'est générateur d'externalité positive.
Jacques Lecacheux, vous vous êtes vous-même beaucoup intéressé au bien-être en économie, notamment dans le livre que vous avez publié avec Éloi Laurent, Un nouveau monde économique, mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe siècle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui valable, selon vous, dans les thèses d'Alfred Pigou sur la nature et les déterminants du bien-être? Et qu'est-ce qui vous semble, au contraire, dépassé?
Commençons peut-être par ce qui semble dépassé. Ce qui semble dépassé, c'est on va dire, l'espèce de d'élitisme qui transpire dans l'ouvrage de Pigou, une espèce de condescendance à l'égard des ouvriers, etc., etc., qui est très typique de l'élite britannique des années 20-30. Ça, c'est clairement dépassé. En revanche, ce qui est particulièrement d'actualité dans les analyses de Pigou, c'est d'une part, je vous dis, tout ce qui concerne la répartition, les inégalités. Il a des développements très intéressants là-dessus, et notamment il a des développements même sur le revenu minimum, etc., qui sont un peu précurseurs de des débats qu'on a sur le revenu universel, etc. Donc il y a vraiment une grande modernité là-dedans. Et puis, alors évidemment, surtout tout ce qu'il dit sur les externalités négatives et sur ce qu'on appelle aujourd'hui la taxation pigouvienne des externalités négatives, c'est-à-dire tout ce qui concerne la lutte contre la pollution.
Alors plus largement, alors que Pigou prône l'intervention de l'État pour régler les dysfonctionnements du marché, on l'a dit, l'économiste est au contraire absolument anti-interventionniste sur les questions de chômage et d'emploi. En cela, il est plus proche d'Alfred Marshall, l'un des pères de l'économie de l'école néoclassique qui a été son professeur, que de John Maynard Keynes qui, lui, a été son élève.
Oui, alors l'une des choses qu'on a retenues, c'est la grande controverse dans les années 30 entre Keynes et Pigou sur la nature du chômage. Keynes, dans son ouvrage La théorie générale, lorsqu'il parle du modèle classique qu'il attaque en permanence, en fait, celui auquel il pense, c'est Pigou. Et Pigou a très violemment critiqué la théorie générale de Keynes.
Et donc, sur quoi s'oppose-t-il ?
Alors, sur justement la nature du chômage, parce que chez Pigou comme chez Marshall, il n'existe pas vraiment de ce que Keynes appelle du chômage involontaire, et donc Pigou est plutôt, comme les partisans de l'économie classique, persuadé que c'est un problème de prix du travail, et que donc c'est l'insuffisante flexibilité des salaires et du marché du travail qui explique le chômage, alors que Keynes, comme chacun sait, était lui au contraire persuadé que le chômage, notamment dans les phases de récession, était largement involontaire. Mais il ne faut pas en déduire pour autant que Pigou était insensible au sort des ouvriers, etc. Il a toujours dans cet ouvrage, il a des chapitres extrêmement intéressants sur le salaire minimum, sur est-ce que il faut encourager les entreprises dans les périodes de récession à faire du temps partiel plutôt que de licencier, etc. Donc il s'intéresse beaucoup à ces questions quand même. Ça n'est pas juste un horrible bonhomme, quoi.
Et vous, Jacques Lecacheux, comment avez-vous été amené à vous intéresser à Alfred Pigou ?
Alors moi, j'avoue que comme beaucoup d'économistes, j'ai d'abord entendu parler d'Alfred Pigou à propos justement des externalités, et notamment de la pollution et de la politique fiscale que Pigou préconise pour lutter contre la pollution. Et c'est seulement par la suite, en lisant son ouvrage, que j'ai découvert les autres aspects. Mais c'est vraiment sans doute ce pourquoi il est le plus connu aujourd'hui.
Pigou qui est très connu, mais dont les ouvrages sont en réalité très peu traduits.
Oui, bizarrement, il a écrit plus de 30 ouvrages et une centaine d'articles, donc il a été très très prolixe. Il a eu une carrière très longue, puisqu'il a été nommé prof à Cambridge en 1908. Il a succédé à Alfred Marshall, il avait 31 ans, et il est mort en 59. Donc vous voyez, il a eu quand même plus de 50 ans de carrière académique. Et aucun livre de lui n'est traduit en français, curieusement, alors qu'on le cite très souvent, justement, sur ces questions.
Merci beaucoup, Jacques Lecacheux, de nous avoir permis de découvrir l'économie du bien-être d'Alfred Pigou. Je rappelle votre livre « Un nouveau monde économique, mesurer le bien-être et la soutenabilité au XXIe siècle ». Il a été publié chez Odile Jacob. Merci beaucoup.